Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les vendredis, le réveil culturel est consacré à l'actualité de la bande dessinée. Ce matin, on va parler de Après le printemps, bande dessinée éditée par Futuropolis. Ce récit en forme de reportage raconte la Tunisie de l'après-révolution à travers quatre jeunes Tunisiens partagés entre désenchantement et colère 2 ans après la chute de Ben Ali. Pour cette bande dessinée, l'autrice Hélène Aldeguer a obtenu le prix France Culture des étudiants, le prix de la bande dessinée politique. Et elle est notre invitée ce matin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Hélène Aldeguer.
Bonjour.
Et félicitations.
Merci.
Le prix France Culture des étudiants vous a donc choisi pour obtenir le prix cette année, le prix de la bande dessinée politique. Après le printemps, une jeunesse tunisienne sortie en début de saison chez Futuropolis n'est pas votre première bande dessinée qui parle de la Tunisie, puisque vous étiez déjà rendue en Tunisie pendant la Révolution.
En fait, je m'étais rendue en Tunisie pendant mes études exactement et j'avais passé plusieurs mois avec les journalistes de Newet, qui est un journal indépendant à Tunis, et j'avais fait mon projet de diplôme sur les élections de 2014. J'étais retournée là-bas pour voir un peu comment ça s'était passé.
Et pourquoi avoir choisi la Tunisie ?
Pour des raisons personnelles. D'abord, moi j'avais été en Algérie et c'est vrai que j'étais majeure au moment des révolutions et j'ai eu envie de voir ce qui se passait en Tunisie et j'ai pris contact avec les journalistes de Newet et j'y suis allée et ils m'ont vraiment accueillie. J'ai vraiment le coup de cœur pour ce pays, j'y suis restée et retournée plusieurs fois.
Alors là, ce que vous racontez dans Après le printemps, c'est le début de la désillusion de vos protagonistes, hein. Donc on imagine que ces deux filles et deux garçons, ces quatre jeunes dans le vent de la contestation tunisienne, sont proches de vous parce que vous allez nous raconter leur quotidien face à la désillusion. 2 ans après avoir chassé Ben Ali, les Tunisiens qui sont sous le gouvernement du parti islamiste à l'époque, Nahda, donc, ne voit pas d'amélioration de leur vie.
Oui, je pense que ces personnages ont été recréés à partir de gens que j'ai rencontrés et avec qui je me suis liée d'amitié. Que ce soit des gens rencontrés à Tunis, donc la capitale, ou des gens finalement de milieux plus ruraux, puisque j'ai pas mal passé de temps aussi dans le gouvernorat de Jendouba, qui est à la frontière algérienne. Et des profils très différents finalement entre l'intérieur et la capitale, et j'avais envie de rendre ça leur lutte et leur combat quotidien.
C'est-à-dire que même si cette bande dessinée se présente comme une bande dessinée du réel, de reportage, ça reste quand même une fiction.
Oui, c'est une fiction inspirée de faits réels. Je pense que je voulais vraiment... toute cette chronologie de l'année 2013 avec des faits politiques très concrets, qu'on apprenne des choses aux lecteurs et en même temps avoir cette fiction de jeunes qui mènent un peu leur vie comme ils peuvent, recréer autour de ce que j'ai pu entendre autour de moi, mes amis là-bas. Et cette liberté finalement de faire de la fiction m'a permis de raconter beaucoup de choses et de prendre certaines libertés en ayant quand même le contexte politique.
Alors, le contexte politique, pour ceux qui l'auraient oublié, ce qui est bien dans cette bande dessinée éditée par Futuropolis, c'est qu'elle se termine par une chronologie. Donc, on est remis dans cette période très très précise de l'histoire de la Tunisie, et on suit Myriam, la brillante étudiante en droit, et son copain Aziz, qui lui, en plus des études, s'épuise dans des petits boulots précaires comme les centres d'appel. Et il y a Shaima, qui opte pour l'exil quand son copain Saif, qui est originaire donc de cette petite ville à la frontière algérienne, ne peut pas abandonner sa famille dans la misère. Et donc il y a ces quatre petites histoires, ces histoires de jeunes et derrière l'histoire d'un pays en mouvement.
Oui, c'est ça moi qui m'a vraiment frappée quand j'y étais, c'est que ces jeunes-là, ce sont mes amis, ils ont mon âge, ils font des études, ils essayent de trouver un boulot, ils ont des galères comme moi, et en fait ils sont face à un enjeu bien plus énorme et des luttes assez incroyables de mon point de vue, c'est-à-dire une nouvelle démocratie, une nouvelle conscience politique, et comment les deux se rencontrent finalement, l'intimité et la grande histoire.
Alors, parlez-nous de vos personnages, Hélène Aldeguer. Allez, on commence par Myriam.
Oui, je pense que j'avais envie de montrer d'abord que c'est un peu le personnage porteur d'espoir du livre. Déjà, c'est une femme, et en Tunisie, comme dans beaucoup de pays, les femmes sont très diplômées, souvent majeures de promo, ce qui est son cas. Elle fait des études de droit, elle veut être avocate, elle a des modèles, ce qui est bien en Tunisie, parce qu'il y a... Je parle de Rehan Esraoui, qui est une grande avocate des droits de l'homme. Et pour elle, c'est aussi une forme de projection de se dire qu'il y a des femmes avocates qui ont réussi, qui sont très connues. Et elle, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elle veut rester en Tunisie. C'est dur, mais elle a des choses à faire là-bas et elle y croit. Elle a pas sa langue dans sa poche, elle a un engagement politique. Et pour moi, c'est vraiment le personnage porteur d'espoir du livre.
Et son petit copain, Aziz ?
Lui, par contre, c'est plus difficile. D'abord, il vient du sud, donc du Gergis, une ville tristement connue parce qu'il y a beaucoup de départs de migrants et il y a parfois des corps qui reviennent sur la plage. C'est un épisode dont je parle dans le livre.
Il est représenté, il est dessiné, c'est les moments dramatiques de cette
Oui,
bande dessinée.
je pense que c'est ça qui est important pour moi de le montrer, c'est que c'est l'histoire d'un couple et en même temps, il y en a un quand il rentre voir sa famille qui se bat sur la plage, et ben il va voir une coque de bateau cassée et tout de suite on se rend compte que ils sont face à quelque chose de vraiment très dur. Et lui, il voit sa copine qui se bat, qui arrive. Et lui, en même temps, il n'y arrive pas. Vous mentionnez les centres d'appel. C'est quelque chose d'assez incroyable en Tunisie. Je pense que tous les jeunes sont passés par un centre d'appel pour avoir un tout petit peu de sous.
Oh, mais alors, quel symbole de la mondialisation? Parce que on voit bien que ces jeunes, si à un certain moment ils ont cru qu'ils allaient changer la donne dans leur pays, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas changer le monde. Et là, on voit bien que ces petits boulots précaires qu'on réserve pour les pays du Sud, eh ben, ça ne rend heureux personne.
Oui, ça, je pense que c'est assez fou. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est toujours énervé de recevoir des coups de téléphone, de démarchage. Mais là-bas, c'est un phénomène assez incroyable. Et le plus terrible, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui restent là-bas parce qu'en fait, il y a tellement de chômage et tellement de travail qui n'est pas déclaré, qui a aucune sécurité de l'emploi, que finalement, le centre d'appel, c'est quand même un endroit où il va y avoir un salaire, où ils vont pouvoir payer un tout petit loyer. Il faut savoir qu'à Tunis, la vie est extrêmement chère, que le dinar a été dévalué de façon incroyable et que toutes les denrées alimentaires ont explosé, que justement, le jeune personnage du milieu rural montre finalement à quel point le chômage dans certaines zones, c'est presque 40%, donc c'est presque un sur deux qui n'a pas de travail et qu'en effet, la plupart des jeunes pense quand même à émigrer et à quitter la Tunisie.
Comme Shaïma, par exemple.
Voilà, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle le fait en trouvant un stage, en ayant son visa d'études, donc de façon tout à fait légale. Et pour elle, c'est une avancée dans sa démarche professionnelle et scolaire. Il y a aussi des gens qui pensent à faire ça de façon illégale, malheureusement. Mais il y a quand même des personnages qui veulent rester, et ça, c'est important de le montrer. Je pense que la société civile est très active en Tunisie. C'est dur et ils critiquent beaucoup, mais ça montre qu'ils s'y intéressent. Et même s'il y a beaucoup d'abstention aux élections, ils sont quand même toujours vigilants de ce qui peut se passer au niveau de l'actualité politique.
Vous étiez donc sur place, Hélène Aldeguer, c'est bon de le rappeler, à ce moment très très précis, parce que là, les islamistes sont arrivés au pouvoir, les gens commencent à se poser la question, est-ce qu'on a fait la révolution pour avoir Ennahda au pouvoir? Et pour dire les choses franchement, on commence à voir des gens qui se dépolitisent au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, et ce qui les intéresse, c'est vraiment la survie, c'est-à-dire ils veulent juste s'en sortir économiquement.
Oui, je pense que, par exemple, ce qu'on oublie, on connaît Mohamed Bouazizi qui s'est immolé, mais on oublie les cas d'immolation tous les ans. C'est-à-dire que jusqu'à 2014, il y a à peu près une centaine de cas d'immolation qui sont répertoriés en Tunisie, ce qui est énorme, et ça, on n'entend plus parler. Mais ça montre bien le désespoir, finalement, de la jeunesse. Et une dictature aussi longue, ça ne s'efface pas aussi rapidement. Et la jeunesse est encore vraiment la victime de corruption, de violences policières. Elle a du mal à trouver du travail, à trouver sa place. Et c'est vrai qu'elle était porteuse d'espoir et elle est déçue.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
احنا في بنديلان عايشين الهند في الهند غطسين شوشة في الحرية بارا 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 بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان كما قالت صوفيا بارا را 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 احنا في بنديلان عايشين الهند في الهند غطسين شوشة في الحرية بارا 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 بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان كما قالت صوفيا السمعية يا صوفيا يا رمز الوطنية وين تشوفي بالأمان بارح بركة براكوني فكوا لي تليفوني روح نبكيك المخنان قلت نمشي نشكي توا توا ياخذوا لي حقي بالقوة راني في بلاد حقوق الإنسان
قالوا لي يزي مدوة يا اخي اللي جي يشكي هو ارجع كي تولي سيب لا 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 لا
Après le printemps, une jeunesse tunisienne était une bande dessinée éditée par Futuropolis. Hélène Aldeguer, vous êtes bien sûr l'autrice de cette bande dessinée, mais vous êtes aussi le témoin de cette période entre espoir et désillusion, parce que on est 2 ans après la révolution du 14 janvier en Tunisie, avec les personnages de votre bande dessinée. Mais la désillusion, c'est la crise économique, c'est l'arrivée d'Al-Nahda au pouvoir, et c'est surtout, et vous le montrez très bien dans votre bande dessinée, c'est la fin de la révolution égyptienne. Le maréchal Sisi vient de s'installer au pouvoir, et les Tunisiens, comme les Égyptiens, je suppose, comprennent que la parenthèse révolutionnaire est refermée.
Oui, je pense que ça a été très fort le moment d'El-Sisi à la télévision, parce que c'était au moment où justement les Tunisiens et les Tunisiennes mettaient en cause leur gouvernement qui était Narda et qui avait certaines proximités avec les frères musulmans, et tout de suite ils ont fait les liens évidemment. Et ce qui est intéressant tout de même de noter, c'est que justement en Tunisie, quand on discute avec les gens, on voyait des gens qui disaient c'était mieux avant, ce genre de choses un petit peu qu'ils regrettent. Et finalement, cela faisait un peu appel au mythe de la sécurité, au miracle économique tunisien qu'on entendait beaucoup aux périodes de la dictature, qui s'est soudain effondré, bien sûr, parce que les conditions économiques ont chuté. Et aussi qu'il n'y avait plus cet outil de propagande qui permettait de mettre en avant un mythe sécuritaire et un rapport au tourisme, un miracle économique qui était en fait un leurre.
Pour raconter cette histoire, pour revenir sur cette période, vous avez opté pour le noir et blanc, classieux, la ligne claire. Est-ce que ce traitement graphique, c'était une manière aussi de montrer que vous étiez dans le réel, dans la restitution du réel, ou c'est votre style, Hélène Aldeguer?
Alors ce type de dessin-là, évidemment, déjà c'est mon style, mais j'avais envie d'utiliser le noir et blanc peut-être parce qu'il y a une forme de très directe, un peu brutale parfois, quelque chose d'un trait assez fin, assez naïf parfois, et finalement d'aller droit aux choses. C'était une façon pour moi d'incarner mes personnages, d'être vraiment juste dans le contraste, et c'est ça qui m'a plu dans ce traitement.
Vous parlez arabe, Hélène Aldeguer?
J'apprends, oui. Même ouais. Si je suis confrontée aux difficultés des dialectes et de l'arabe classique. En Tunisie, je m'étais mise au dialecte. Puis de retour en France, j'ai repris le classique. Et puis voilà, faire le pont entre les deux, c'est un jeu, c'est rigolo. Mais j'apprends.
تفرك سوف عيوبي كان ربي يستر لذنوبي كانت تحبى بريتوبي لا تولي كي الكلب سكوبي نخدم ونعبي في جوبي ما عندي تقول لي حبوبي ما نبكيش على مكتوبي مكسبنا صح نزبوبي شعب يدوى يا ذنوبي نكفي الكل الكل سوبي ولا يكشلت عكاروبي والقعدة يفلحوا معروبي في راسي ستريس ومهنتي في الهز الكاس وعصبة لك حمدي النجاز وما نفلم بالبير ركزيز حقارة مع الحقارة والحقار يموت الذليل والمحقور يموت الذل ونحنا اللي نعيشوا بالليل بلادكم انضفات وزنبي الحومة مش اللاك هنا كان الوزاك وحومة أقوى من العراق الماركي كي أوان وغنيتي في وذنكم كرهونا ذر السفلان انت على بهم وفي عينيكم أردت مانشستر بيبر وضحكي عتيمان ما نلعبش بك سنايبر ركسينو ناحية تخمام الجن مانيش سنايبر ذري فيسبوك وتويتر الكابو على ساحة مسيطر ودواكم مو عند البيطر ساحي نعمر ونشرجي نقتل الكلب والخرشي كي نمرض ما نشدش فرجي خليني نخرج لي نرجي اسمي الابيض مش زنجي ستاري باركي هما بونج عبادة تبكي عكا انجي عالم دار وكراونجي ولادك في شفوفات اما يمنع عم يعيشوا سرقونا بالكوستيمات قالوا موتوا ما نعطيشو عديني على التحريض نيكمك عمري ما ريضنا هو اكبر مريض اما عكلام الحق بالعيد هو اللي شلق وقتلوه وارتاحوا منه والباجولي معها سرقوا ما خمم في شي بوسنه نكتب على المحكوم ولك لا تبلد الروم نصبروا في بعضنا بكلمة والله لا حال يدوم لا حامل حومة يبكي من سحبو راهو مكدوم نالي العزوزة وسطني كيف نطيح وحدك تقوم ماشي في طريقي وحدي وما هنتش في شكون معايا نحنا اللي سابين
Aujourd'hui, est-ce que ces jeunes qu'on rencontre dans votre bande dessinée sont dans une autre phase? Comment va la Tunisie aujourd'hui?
Je pense qu'à un moment important, ça a été les élections municipales de mai 2018. C'était important d'abord parce que c'était un enjeu de décentralisation au niveau de la Tunisie. Il faut savoir que vraiment la capitale et le littoral concentrent tous les investissements et que l'intérieur est marginalisé. Et pour les Tunisiens et les Tunisiennes, c'était important. Il y a eu beaucoup d'abstentions. Il y a eu quand même une preuve que les deux grands partis majoritaires sont assez délaissés par l'opinion publique, Narva et Nida Tounes finalement. Qu'il y a des partis indépendants, ce qui est une très bonne nouvelle, qui commencent à prendre leur essor, particulièrement dans la région de Tunis, Ariana, où là il y a eu beaucoup de pourcentages pour des partis indépendants. Mais que les élections présidentielles arrivent à l'automne 2019 et que, a priori, il y aura certainement beaucoup d'abstention.
Mais ça veut dire que la désillusion continue? On est dans la phase désenchantement?
Eh bien, pour le moment, ceux que je connais, en tout cas, ne sont pas très enchantés, ça c'est sûr. D'abord parce qu'ils sont représentés par un homme qui a plus de 90 ans quand même.
Mais qui a décidé de ne plus se représenter.
Voilà, mais c'est quand même assez...
Il a pris note de ce qui s'est passé dans le pays
voisin. Voilà, dans le pays voisin, je pense. Mais c'est vrai que c'est assez fou de dire que des populations aussi jeunes sont gouvernées par des personnes vraiment d'une autre génération. Comment peuvent-ils se projeter sur ce genre de personnalité? Donc oui, il y a quand même encore beaucoup de désillusions, mais il y a des luttes quotidiennes qui sont pas abandonnées. La société civile est quand même très active. Il y a beaucoup d'associations, des médias indépendants. C'est entre deux. J'ai pas envie de perdre espoir, mais c'est vrai que c'est dur. Avec la dévaluation du dinar, surtout, la situation économique est très difficile.
Dans cette bande dessinée, après le printemps, une jeune gymnaste tunisienne, Hélène Aldeguer, vous évoquez, mais d'une manière très fine, le regard que peut porter un occidental sur la situation en Tunisie, en rappelant, en mettant en scène justement cet épisode des femmes qui débarquent en Tunisie, alors a priori pour la bonne cause, mais vous semblez dire que c'est pas si évident que ça.
Ça a fait de gros débats, oui, la venue des femmes pour soutenir Amina, la jeune Tunisienne femme, du coup, qui a été accusée et enfermée. Et je pense que ce qui était intéressant, c'est que Amina n'a pas été libérée et les femmes ont été libérées. Donc la question a été de savoir, est-ce que cette action-là a été
efficace ou pas.
Voilà. Mmh. En n'oubliant pas non plus qu'il y a des luttes féministes en Tunisie et des organisations. Par exemple, Amina a été défendue justement par Razia Nasraoui, qui est une grande avocate, qui avait, il y a les femmes démocrates tunisiennes. Donc il y a vraiment aussi une scène féministe active en Tunisie qui estime qu'elle n'a pas forcément besoin, entre guillemets, de féministes européennes qui viendraient, qui connaîtraient pas réellement la Tunisie finalement. C'est-à-dire que les Françaises qui étaient venues n'avaient pas forcément d'attache sur la Tunisie, ne s'étaient pas vraiment renseignées. Et je pense que c'est ça qui a choqué un peu le peuple tunisien, c'est qu'il y avait un côté...
Non, mais ce qui a choqué, c'était aussi les seins nus.
Oui, ça, évidemment.
Et vos personnages disent que c'était pas une bonne idée, qu'à la limite, c'est insultant pour la culture tunisienne.
Oui, je pense qu'il y a d'abord la première réaction, c'est-à-dire que pour eux, c'est très choquant parce qu'il y a une forme de pudeur dans Tunisie. Ensuite, ça a été aussi pour eux pris comme une forme de mépris, je pense, en disant que c'est médiatique et que ça ne porte pas le message. Donc, à plusieurs niveaux, finalement, ça a été plutôt globalement rejeté, même si ils disaient que, enfin, des associations ou des collectifs se sont montés pour dire il faut pas les enfermer, on veut la liberté d'expression pour tout le monde, que ce soit pour une Tunisienne ou des étrangères. Mais c'est vrai que globalement, ça a été reçu avec une grosse distance, parce que aussi, quand on est français et qu'on arrive en Tunisie, c'est pas anodin. Et le discours qu'on porte, il faut savoir d'où on vient, comment on le porte. Et
vous êtes posé ces questions, Hélène Aldeguer?
Oui, ça, c'est évident que quand on arrive là-bas, qu'on est une femme française et qu'on arrive dans un pays d'abord où les gens vont vous parler français, en fait. Ils vont pas vous parler arabe, même si vous essayez d'apprendre l'arabe, ils savent que vous êtes française et eux, beaucoup parlent français. Tout de suite, on se dit, comment se fait-il qu'en tant que français, je m'attends un petit peu à ce qu'on parle français en Tunisie, dans un pays pourtant arabophone, où tout va être écrit en français. Il y a eu un débat dernièrement sur l'arabisation en Tunisie. À Tunis particulièrement pour les devantures de magasins, d'arabiser les devantures parce que certaines sont écrites en français qu'en arabe. Et il y a eu gros débat d'identité. Donc la langue française et le fait d'être un touriste français, c'est jamais anodin. Et il faut jamais dans mon sens, arriver en ayant l'air de donneur de leçons, par exemple, ou de pas connaître et de ne pas écouter, finalement. C'est-à-dire d'y aller en pensant qu'on connaît déjà et qu'on est déjà un petit peu en terrain familier. Alors qu'ils ont beaucoup à nous apprendre et que la Tunisie, ce n'est pas la France, c'est vraiment un autre pays et on a beaucoup, beaucoup à apprendre.
Vous ne vous mettez pas en scène dans cette bande dessinée, hein ?
Oui, oui, tout à fait. Là, c'était l'idée de donner des voix aux gens que j'ai rencontrés. En fait, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont marquée et j'avais envie de porter ces voix-là et particulièrement les voix justement du milieu rural parce que c'est des voix qui sont assez peu portées et vraiment oubliées. Et c'est des gens à qui je me suis beaucoup attachée parce que c'est pas forcément le même débat que la capitale, mais c'est tout en politique. Et c'est vraiment avec beaucoup d'intensité qu'ils portent leur propre lutte, que ce soit dans des milieux agricoles ou plus populaires.
Et cette bande dessinée, après le printemps, elle a été lue par vos amis, distribuée en Tunisie ou pas encore ?
Alors je l'ai évidemment, en fait, en cours de l'écriture, je consultais mes amis tunisiens pour voir aussi, évidemment, au niveau du contexte, mais même aussi en termes de est-ce que c'est crédible finalement ces jeunes-là, comment ils discutent, de quoi ils parlent, des petites expressions vraiment typiques des Tunisiens. Je parle vraiment de Myriam qui parle des chez nous là-bas, c'est quelque chose que j'ai entendu en Tunisie et que j'ai jamais entendu en France, et j'avais envie de remettre quelque chose de vrai dans les discussions de jeunes. Et ils l'ont lu après aussi, une fois fini. Elle a été envoyée en Tunisie, après, a priori c'est plutôt à la librairie d'El Marsa ou dans la capitale finalement, parce que bon, c'est un tarif préférentiel, mais je n'imagine pas vraiment que ça coûte cher, une bande dessinée. Donc acheter une bande dessinée en Tunisie, c'est un petit milieu. Elle est en français en plus, parce qu'elle n'a pas été traduite évidemment. Donc c'est sûr que c'est assez restreint, je pense que c'est symbolique. Moi ça me fait plaisir qu'elle soit envoyée en Tunisie.
Vous vous tenez au courant toujours de ce qui se passe en Tunisie, Hélène Aldeguer ?
Bah oui, de loin, là ça fait quelques mois que j'y suis pas allée, mais j'aimerais y retourner. Et puis par mes amis aussi, toujours de discuter. C'est là que je vois que il y a un désenchantement et en même temps, il y a encore beaucoup de volonté de critiquer, de débattre, de parler de tout ce qui peut se passer. Dès qu'il y a des scandales, il y a quand même des médias. Je continue de suivre le média Newet. J'ai dessiné pour Inkifada, un autre média tunisien. Donc, plusieurs sources pour un petit peu savoir ce qui se passe.
Pendant la Révolution, on a vu apparaître des talents de dessinateurs et de dessinatrices en Tunisie. Est-ce que la bande dessinée, le dessin sont présents dans les librairies de Tunis ou des autres villes du pays ?
Bah, je pense déjà Willis from Tunis.
Bien sûr, Willis from Tunis s'est fait connaître par son blog.
Elle est extrêmement connue, oui, c'est vraiment super avec son fameux chat. Il y a Zed aussi, tous les deux sont vraiment, je pense, deux figures extrêmement connues et qui ont fait des expos en France aussi, à Angoulême. Donc une vraie voix vraiment caustique de la Tunisie. Il y a aussi le Lab 619, c'est de la bande dessinée en fait tunisienne et qui parle beaucoup de faits sociétaux. Moi je suis assez admirative parce que faire de la bande dessinée en France c'est pas facile, mais alors en Tunisie ça doit être vraiment très dur, vraiment porter ça c'est... Il faut avoir du cran et c'est un travail collaboratif, donc c'est vraiment super. Il y a des artistes qui se bougent, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Et vous, Hélène Aldeguer, comment êtes-vous arrivée à faire de la bande dessinée ? S'il fallait vous poser une question sur votre parcours ?
Oui, en fait j'ai toujours voulu, moi c'est comme ça que j'ai envie de raconter des histoires et c'est comme ça que je le fais, avec des dessins. J'ai fait des études d'illustration à l'école Estienne à Paris et voilà, j'ai décidé la bande dessinée plus que l'illustration parce que j'avais envie vraiment de faire des gens qui discutent et qui vivent des choses.
Merci Hélène Aldeguer. Après le printemps, une jeunesse tunisienne est éditée par Futuropolis et votre bande dessinée a obtenu le prix étudiant de la bande dessinée politique, un prix France Culture. On peut réécouter votre entretien en passant par la page du Réveil Culturel où l'écoute en ligne et l'abonnement au podcast sont à votre disposition en quelques clics. Seulement, la coordination du Réveil réveil culturel est assuré par Corinne Amard, assisté par Maël Ray, réalisé par Vincent Abouchard, avec à la technique ce matin Valérie Lavalard. On se retrouve lundi à la même heure et en compagnie de Jean-Paul Kaufmann pour le lundi de Pâques férié. On ouvrira les églises fermées de Venise. Bonne fin de semaine, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. بالثقة زايتين ديما شانعين حتى ما عنا شفلوس وديما حامدين ربي عليهم عاملين في طريقنا ماشي قلوبنا صافين وما عنا حد شيء مخبي زولنا عايشين احسن من الاخرين مش كيما اللي عنده الفلوس وعايش في كوبي شبيكم ناسين ونحنا واعدين صرنا ضلوا عقده اللي قوموا شهر ربي الحمد لله ما لحسناش الحمد لله ما نقصناش الحمد لله حتى كي تحت بينا روحنا ما بعناش ربحناكم برشا ببلاش حتى بفلوسكم ما لقيتوهاش زرعنا جينا اللي مو بصابتنا وحد ما يقول عليه في غضوة خير نمن لي مكتبه رب يصير نحلش وين حندير ولا بس ميمتي الحرير ما اخترتش نعيب دليل خوك مانيش كل مشاهير حقي نفكه بدراعي وما نطيح خشميك غير شوفي غضوة خير نمن لي مكتبه رب يصير نحلش وين حندير ولا بس ميمتي الحرير ما اخترتش نعيب دليل خوك مانيش كل مشاهير حقي نفكه بدراعي وما نطيح خشميك غير شوف شو المتاع غرب فيهم هو كيدهم يلعبن فيهم للا نرجع جو جو خلنا نرجع نسب فيهم في بلاد الهرج عمج عايش محتج بلاد اشترف الحبس والاخر هج روحي قاعدة تطلع في كل درج لازم نلقى حل المخ خج لازم نجيب فلوسي او لا من غير ما نهز خوفة للدولة ماكم عملتو هبت الحيسكم واحنا صبرنا زقنا المولى مع الناس هادوما لازمك جروما انت جاحو